Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Jérôme Florin jusqu'à 9h15.
À 7h47, au lendemain de la mort de Joël Robuchon, à 73 ans, et bien vous recevez ce matin Jérôme, le chef étoilier Thierry Marx.
Bonjour Thierry Marx.
Bonjour.
C'était le plus grand, Joël Robuchon?
En tout cas, pour moi, c'est le plus grand, oui.
Oui.
Oui, parce que d'abord, il m'a ouvert les portes de ses cuisines, j'arrivais de nulle part. Et ça a été des mots simples, efficaces. Si tu sais ce que tu veux, ben, montre ce que tu vaux. Voilà, j'ai eu la chance de passer comme commis dans cette maison et de voir ce qu'était l'efficacité d'un grand artisan.
C'était quel genre de patron ?
Quelqu'un de juste et fidèle. D'ailleurs, son nom chez les compagnons, c'était Poitevin la fidélité.
Oui.
Voilà, pas trop de mots, mais il montrait beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait le sens du geste, un geste précis. Maîtrise du geste, maîtrise de la cuisson des choses, une maîtrise sur la transformation des produits, une connaissance des produits extraordinaire, donc il n'y avait pas de place pour l'à peu près.
Mmh. Quelqu'un de très dur, il y a quelques années, un commis avait porté plainte contre lui pour harcèlement, plainte classée sans suite, hein, je précise, mais c'était quelqu'un de dur aussi.
Non, c'était quelqu'un de juste. C'est quelqu'un de vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il posait un cadre éducationnel, vous y adhériez ou pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et moi, je me souviens de ces mots qui étaient toujours des mots bienveillants, mais pour vous faire grandir. Et quand on parle de dureté, on parle souvent de rigueur. Mais là, quand vous rentriez dans une équipe comme celle-là, c'était la rigueur comme un projet. Vous tirez vers le haut, pas pour aller vers la médiocrité.
Vous avez parlé des produits. Il faisait très attention au choix des produits en disant qu'il fallait les respecter.
Ah oui, c'était une obsession permanente. C'est-à-dire qu'une botte de cerfeuil pouvait repartir chez le fournisseur si elle n'était pas impeccable. Donc, ça veut dire que les producteurs qui le fournissaient fournissait une maison d'un très haut niveau et les fournisseurs avaient un respect extrêmement profond pour la marchandise qu'ils apportaient chez Monsieur Robuchon parce qu'ils savaient que ça repartait aussitôt.
Monsieur Robuchon.
Ah oui, non, le chef, c'était... Vous voyez, moi j'ai eu un petit mot de lui à... Début juillet, j'avais répondu brièvement. J'étais toujours très heureux quand tous les deux mois, trois mois, il y avait un petit mot d'encouragement, parce que c'était, il a été une lumière. Il le sera toujours d'ailleurs, parce qu'il a supposé un cadre éducationnel sur mon métier. C'est-à-dire qu'il m'a donné les principes de base, la maîtrise du geste, la maîtrise de la cuisson, le bon timing et le respect du produit.
Il vous a dit quoi dans ce petit mot ?
Oh, c'était un petit mot très privé sur une compétition engagée en ce moment.
Mais il était déjà très malade.
Oui, mais c'est un monsieur qui se plaignait jamais. Jamais. Je l'ai croisé... À plusieurs reprises, on s'était parlé et jamais je l'ai entendu se plaindre de quoi que ce soit.
Il disait qu'il fallait faire de l'exceptionnel avec du simple. D'ailleurs, son plat le plus célèbre, c'est sa purée de pommes de terre.
Oui.
Tout le monde n'a pas eu la chance d'aller manger chez Joël Robuchon. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette fameuse purée de pommes de terre ? On en a beaucoup parlé, mais vous pourriez décrire un peu la texture, la saveur pour nos auditeurs.
D'abord, c'était effectivement un jeu de texture et de température. C'est moi ce que j'appelle souvent donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc c'était le choix des pommes de terre, la cuisson.
Des rates, c'était des rates.
Oui, des rates. La cuisson extrêmement précise. Et après, tout la façon de faire, le passage au tamis, le passage à ce qu'on appelait la niçoise, aux presses purées, et ensuite légèrement monté au beurre. Et ça lui donnait une texture, une saveur très particulière, et qui restait entre esprit, qui fidélisait le client. On ne pouvait pas envoyer un plat sans qu'il y ait une petite purée à côté. Et non, c'était extraordinaire.
Un de ses autres plats, c'était le merlan frit Colbert.
Oui.
Alors c'est un plat qu'on apprend, je crois, en formation CAP, donc c'est un plat de base, mais il en a fait quelque chose d'exceptionnel.
Oui, c'est vrai, le merlan frit Colbert ou le merlan frit en colère, c'était des plats dits classiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'opposait pas la tradition et l'innovation. Il n'y avait pas de conflit sérieux. Ce qui comptait, c'était la transmission et la transmission des choses bien faites. Donc c'était toute sa grande sagesse là-dessus, mais il fallait que ce soit impeccable.
Vous parliez du geste. C'était un technicien et il disait souvent, il s'énervait, les chefs aujourd'hui manquent de technique. Oui, c'est quoi la technique ? Parce que quand on est chef, on a de la technique, forcément. On sait découper de la viande, on sait...
Oui,
c'est quoi une bonne technique ?
Non, pour lui, il fallait avoir les bases. Donc, tous ces chefs qui en parleraient mieux que moi, d'ailleurs, parce qu'on travaille plus longtemps avec lui, je pense à des gens comme Éric Briffard, comme Frédéric Anton, des gens qui ont été vraiment ses lieutenants, Éric Bouchenoir. Le geste est important, l'affûtage de votre couteau, la propreté de votre plan de travail, savoir lever un filet de sol, et puis savoir faire un jus de viande, c'est-à-dire que, ou des choses qui sont les bases de notre métier pour pouvoir construire. construire. Si vous n'avez pas ces bases, ça va être empirique. Après, vous allez assembler des choses un petit peu sans leur donner du sens. Lui, ça avait donné du sens aux choses et il considérait que les bases étaient l'essentiel de notre métier. Mmh. Maîtrise du geste, maîtrise du feu, la cuisson. Et le bon timing pour faire les choses et le respect du produit.
Il avait notamment appris à découper du poisson en Asie, au Japon.
Au Japon,
il n'avait jamais su vraiment quel était le bon geste avant cela.
C'était un peu la légende. Il avait déjà un très beau geste avant, mais c'est vrai qu'on parlait souvent du Japon. Et moi, je le croisais souvent sur Tokyo, bien évidemment. Et effectivement, il était très curieux des compétences et des connaissances des autres. Et puis, évidemment, personne ne reste insensible à la maîtrise du geste de la découpe du poisson japonais.
C'était aussi un des premiers chefs stars. Là aussi, il vous a servi de modèle, hein, en quelque sorte, Thierry Marx. Parce que Joël Robuchon, il avait toute une gamme de plats préparés à son nom. Il avait fait un partenariat avec un célèbre industriel. Est-ce que ça n'a pas contribué quand même à démonétiser, dévaloriser un petit peu son nom, de s'associer comme ça avec un grand industriel et faire des plats qu'on trouve dans les grandes surfaces?
Non, pas du tout. D'abord, quand un artisan de ce niveau s'associe avec un industriel, c'est pour amener un petit peu de choix et de bon sens dans la préparation de ses produits. Et puis quand vous dites un chef star, c'est qu'il était star pas pour lui tout seul. C'est-à-dire qu'il nous a tous fait participer à Bon Appétit, bien sûr. On était
son
tous demandeurs.
Ouais.
On était plus que dans l'ombre de ce métier à cette époque. Eh bien, il repérait les pépites en province pour les faire venir à Paris, faire l'émission. Et on avait quand même 4 jours d'audience. C'était pas rien. Eh bien, croyez-moi, quand on était appelé par son émission pour la faire, on la faisait. Donc il était pas hégémonique. C'est-à-dire quelqu'un qui partageait beaucoup.
Mais c'était quand même aussi un petit peu le roi du marketing. J'insiste là-dessus. Cette déclinaison de produits à son nom.
Mais pourquoi pas? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un chef peut aussi aller vendre des compétences à des gens. Je crois qu'il faut chercher des solutions plutôt que des coupables. Donc c'est vrai que quand vous pouvez apporter une compétence dans l'agroalimentaire, il ne faut pas vous gêner. Quand vous apportez une compétence dans le green label, il ne faut pas vous gêner. Il faut le faire. Donc il n'y avait pas de raison et pas de mal à ça.
Votre plat iconique de Joël Robuchon, ce serait quoi selon vous?
La crème de caviar.
La crème de caviar.
Oui, la crème de chou-fleur, pardon, ouais. Excusez-moi.
Là encore, un produit simple, le chou-fleur.
Simple, ouais. Mais qui n'a pas tremblé en faisant les petits points autour de cette crème. Il y avait une... Vous savez, les Japonais disent la cuisine, ça se regarde, ça se médite et ça se mange. Je crois que chez Joël Robuchon, c'était ça. Il y avait une spiritualité dans sa cuisine. Et il était très discret. Très très discret, il parlait peu, mais il y avait une forme de spiritualité dans sa cuisine.
L'année 2018 aura été rude pour la gastronomie française. Paul Bocuse, mort en début d'année. Joël Robuchon, aujourd'hui.
Oui, c'est dur parce que c'est des personnages qui ont évangélisé la cuisine française.
Évangélisé.
Oui, parce que c'est des gens qu'on retrouve sur les quatre coins de la planète. Ce sont des marques extrêmement importantes qui ont défendu l'économie de la qualité, qui ont défendu les petits producteurs, une autre forme d'agriculture. Donc tout ça, il faut le respecter, le mettre en valeur. Et pour nous, on doit apprendre à respecter ce qu'ont fait nos aînés et essayer de faire aussi bien, ça va être compliqué.
Merci beaucoup Thierry Marx. J'en profite pour signaler que vous ouvrez dans quelques semaines sur les Champs-Élysées. Vous ne m'avez pas demandé de me le dire, mais j'en profite pour vous dire. Vous ouvrez un fast-food sur les Champs-Élysées.
Une sandwicherie avec mon compère Oraito, s'appelle Marxito.
Avec des prix accessibles.
Oui, très accessibles.
D'accord,
très
bien.
C'est vraiment pour rigoler.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin pour parler de Joël Robuchon. Merci beaucoup, bonne journée.